êtes prêts?
On y va, on est parti. Les ateliers en direction de la séance.
De la séance yoga et poisson.
Depuis 12 ans, il existe à Châtillon-Saint-Jean un salon littéraire jeunesse. Un salon qui vous fait la promesse de l'ivresse, livre jeunesse avec un apostrophe. Cette année, il a eu lieu exceptionnellement à Triors du 27 mars au 1er avril. Pendant 5 jours, rencontres, dédicaces, ateliers, spectacles et animations se sont enchaînés avec un rythme trépidant. Radio Royan a couvert la dernière journée de ce salon. Nous vous embarquons dans notre voyage, entre les allées, à la rencontre des auteurs, de leur enthousiasme, de leur militantisme aussi.
Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, bon, ben, comme ça a déjà été annoncé tout à l'heure, c'est effectivement mon dernier discours.
Pierre-Yves Taravello, il est le directeur de l'école de Châtillon-Saint-Jean, l'école qui organise avec l'association de parents d'élèves cet incroyable salon littéraire. À l'occasion de cette inauguration, intitulée « Le début de la fin », puisqu'elle a eu lieu le dernier jour du salon, Pierre-Yves se lance dans son dernier discours avant sa retraite annoncée.
Nous avons senti que vous posiez des questions. Nous avons senti que vous n'étiez pas très serein. Ça s'est vu dans les prises de parole jusqu'à maintenant. Effectivement, pourquoi inaugurer un salon lors du dernier jour ? Pourquoi appeler cette inauguration le début de la fin ? Quelle drôle d'idée, quel drôle de nom. Le début de la fin, c'est la fin des haricots, la dernière d'air. Pour parler vrai, nous sommes en période d'élection, donc on va parler vrai. J'ai oublié mon devoir de réserve, il faut que je me taise. Donc le salon va-t-il s'arrêter au début de son adolescence ? Les quelques éléments qui vont suivre vont vous permettre de vous faire votre propre petite idée sur cette question qui vous taraude depuis plusieurs semaines. Début de la fin. Le fait que les mairies de Triors, de Parnant, de Saint-Paul aient accepté d'accueillir notre édition du Talon suite à l'annonce des travaux dans la salle Daniel Arlin. Début de la fin. Ces bénévoles qui, depuis une quinzaine de jours, réalisent tout un tas de petites tâches qui rendraient impossible, si elles n'étaient pas faites, l'organisation d'un tel salon. Début de la fin, une grande maison très gentiment mise à votre disposition pour accueillir nos fantastiques invités et les placer dans les meilleures conditions pour résister à notre folle semaine. Début de la fin, le petit Malo qui attend gentiment le dernier jour du salon pour percer sa troisième dent et laisser ainsi assez de temps de sommeil à sa chère maman pour qu'elle ait assez d'énergie pour recharger ses batteries. Début de la fin, tous ces mails ou textos envoyés aux heures indécentes de la nuit pour vérifier les derniers détails qui troublent le sommeil. Début de la fin, tous ces élèves de maternelle à collège qui ont fait vivre de la plus belle manière que ce soit ces rencontres à nos invités. Début de la fin, ces enseignants qui ont mené durant ces derniers mois des projets de néo-salon. Début de la fin, ce beau partenariat avec la DAPEI 26 qui a permis d'intégrer des enfants de l'IME Triors et Saint-Ude à des rencontres, à des projets. Début de la fin, ce garçon qui hier soir, dans la salle des fêtes de Parnant, a lu pendant une heure et demie, alors qu'au-dessus passait de lui une nacelle qui débâchait les ouvertures de la salle, passé au-dessus de lui des gens qui enlevaient des projecteurs, etc., imperturbable, il a fini son Harry Potter en une heure et demie. Début de la fin, nos invités qui se sont investis avec une énergie positive qui faisait chaud au cœur. après cette réflexion d'un élève de grande section, saisi dans le car entre Châtillon et Trier hier après-midi. Moi, quand je serai grand, je veux être garçon de 5 ans, et bien je veux être auteur, illustrateur. Début de la fin, ce scoop tombé. Début de la fin, ce scoop tombé ce matin, annonçant l'arrivée de la dernière étape du critérium du Dauphiné libéré 2018 à Châtillon-Saint-Jean pour la dernière journée de la 13e édition de Livre Jeunesse. Début de la fin, ces spectacles de ouf, cet arbre de ouf, porté par tant d'envie par nos artistes, j'arrive plus à me relire, par nos artistes amateurs et qui arrachaient des larmes aux auteurs, mais aussi à leurs maîtresses. Voilà. Alors après tout cela, et j'en ai oublié, les enfants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le début de la fin. Vous y croyez, vous ?
Radio avec Radio Royan va débuter dans 33 secondes.
32. 5, 4, 3, 2, 1.
L'atelier a commencé. Si vous êtes en retard, c'est un temps vivant. Hein. Il vous attend. Venez vous exprimer. Expérimenter la liberté radiophonique. Le plaisir des mots. Et le plaisir du langage. L'atelier radio vient de débuter. On vous attend dans la petite salle. Derrière la scène de la salle des fêtes.
Entre les allées, Anne Loyer, romancière pour ados.
Alors, comment tu t'appelles ?
Merci.
Wendy.
Allez,
bah, alors, ça s'écrit lecture. Comment ? Merci beaucoup et bonne lecture. Oui.
W.
Ok. Wendy, pourquoi tu as choisi ce livre ?
Parce que c'est une aventure, je pense. Et je pense que ça va être bien mystérieux. Dans un phare. Et ça doit être agréable à lire aussi.
Tu aimes bien lire, hein ?
Oui.
Ah, bah, génial.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir celui-ci plutôt qu'un autre ?
Ben, je regarde. Enfin, je le connais pas vraiment, donc j'aime bien aussi des livres mystérieux, des aventures. Et...
Je voilà. Tu en as déjà lu un parmi cette collection ?
Non.
Non.
Bah écoute, j'espère que ça te plaira parce que tu vois, après, là c'est la Bretagne, après c'est le Portugal, l'Espagne, Venise, donc à chaque fois il y a des aventures.
C'est la série ICO, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. ICO du nom des personnages. En fait, Is c'est Athénaïs et O c'est Hélios. Et comme ils n'aiment pas leur prénom, ils ont choisi ICO. Et forcément, pour une histoire de navigation, c'est plutôt pas mal. Et donc, effectivement, ils parlent chacun à leur tour. Donc, il y a Is qui raconte au passé, puisqu'elle elle écrit dans son journal de bord. Et O, qui est dans l'action, il parle au présent. On a à chaque fois l'alternance des deux points de vue qui se déroule tout au long de l'histoire, de façon à rythmer la lecture et la dynamiser. Et ce qui fait qu'effectivement, comme des frères et sœurs, bah, ils se chamaillent tout le temps, ils s'adorent, ils se détestent, et puis ils s'adorent quand même. Donc ça fait beaucoup d'émotions, de rire. Voilà, j'ai essayé que ce soit très humoristique, en fait.
Et donc c'est le premier, alors, celui qui est
le
Wendy.
Le phare mystérieux qui a choisi Wendy, c'est le premier.
Chaque histoire peut se lire indépendamment. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est important,
ouais.
Ça va. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont les mêmes personnages, mais qui sont dans un pays différent,
voilà,
avec une autre enquête. Il y a toujours les parents et les deux enfants. Mais donc, en fait, c'est une continuité, mais on peut lire le 2 avant le 1, ou ça n'a pas de, il n'y a pas une suite logique. Voilà.
Bonsoir. Merci beaucoup, et puis bonne lecture.
Entre les allées, Nathalie Novi. Peintre et illustratrice. Elle nous parle d'Ancrage, une association portée par des illustrateurs pour, entre autres, collecter des fonds et ainsi venir en aide aux réfugiés.
Oui, Ancrage, c'est né en fait, c'est un collectif d'auteurs illustrateurs jeunesse qui a décidé en fait, il n'y a pas très très longtemps, d'aider les migrants. On s'est posé la question de savoir comment aider les migrants. En fait, moi quand je dis « on », j'ai juste raccroché les wagons, les personnes initiales, c'est Judith Gueffier, Carole Chez, Cécile Roumillère, des gens comme ça qui sont auteurs et illustrateurs dans notre monde de la jeunesse. Et Judith Gueffier était très très impliquée déjà, servait des petits déjeuners à Stalingrad, à Paris, pour les migrants. Et on se demandait comment on pouvait aider. On s'est dit, voilà, il faut collecter de l'argent, collecter des vêtements, collecter tout ça. Et pour collecter de l'argent, elle a fait appel à tous les illustrateurs qui l'entouraient. Et nous a demandé donc, si on était OK pour donner une, deux, trois peintures, trois illustrations qui seraient vendues dans une vente particulière. Et ça a eu un tel succès, on s'est retrouvés, je ne sais pas, peut-être à 200 illustrateurs pour la vente de Paris. Et le succès a été si grand, évidemment tout a été vendu. Le principe c'était de donner des peintures qui seraient en fait vendues 25 euros, 50 euros ou 100 euros. Et tout ça pour n'importe quel nom de l'illustration, c'est-à-dire des gens extrêmement connus comme François Place, Béatrice Alemania, des tas de gens. Laurent Corvezier, je pense. Et qui d'habitude vendent mieux, vendent plus, moi également. Et on a donné des dessins qu'on voulait vraiment donner pour que ça, les gens puissent acheter vraiment, que ce soit tout à fait envisageable de se payer un dessin original d'illustrateur par 25 euros. Ça a très bien marché, on a tout vendu et surtout, ça fait des petits. Donc il y a eu une association Ancrage qui est née également à Rennes, une autre à Lyon. Parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs à Rennes, à Lyon et à Marseille également. Donc voilà, et cette association Ancrage collecte cet argent pour pouvoir aider au maximum les migrants. À notre petite échelle, on fait comme on peut. Nous, on s'est dessiné. Donc il y a des ateliers aussi pendant la journée de fête. Il y a des ateliers, il y a quelqu'un qui offre généreusement des repas. Les ateliers, c'est des ateliers de peinture, ce sont des ateliers de collage, de découpage, des grands dessins collectifs, des choses comme ça, pour que les enfants, les adultes puissent également avoir une journée, une vraie journée de fête pour eux. Et tout le monde est mélangé. C'est pas seulement les migrants, c'est pas seulement les Parisiens ou les gens de Rennes ou les gens de Lyon, ou enfin, peu importe, tout le monde est mélangé. Et on a tous les mois, il y a un événement qui se passe, plus petit, plus modeste, mais un atelier ici, un atelier là, une affiche à chaque fois qui représente la fête. Donc on est sollicité par Judith Gueffier, nous les illustrateurs, pour éventuellement réaliser une affiche ou un atelier pendant toute l'année. Et voilà, ça se passe vraiment comme ça. Et c'est juste normal. On est tellement horrifiés par ce qui se passe. On est tellement horrifiés de voir des gens essayer de dormir par terre et de même pas trouver un petit coin de rue, même parfois pour dormir par terre, un bout de carton. On met des pierres maintenant pour les empêcher de s'installer où que ce soit. Et voilà, ces gens-là, ils sont chez nous, mais c'est pas eux qui ont choisi, c'est la guerre. La guerre, on est aussi responsable, puisqu'on a aussi participé à ces combats. Donc, je pense qu'on est plutôt. On est peut-être un peu naïf, mais évidemment, on est contre la guerre. Et on a envie que les gens soient reçus. Voilà, on a envie de les accueillir. On ne peut pas concevoir les choses autrement. Voilà.
Je trouve pas ça naïf du tout.
C'est naïf peut-être par rapport aux politiciens, mais c'est pas grave. Il faut rester naïf parce qu'ils ne le sont plus assez, je pense. Donc on compense.
Voilà. Si on revient sur Ancrage, j'ai l'impression, du coup, dans ce que tu m'as dit, qu'il y a un aspect vraiment collecte d'argent en vendant des œuvres. Et il y a un aspect qui est plutôt permettre du coup des temps d'expression collective.
Oui,
c'est ça.
Oui, exactement. Ces deux choses-là sont vraiment capitales. Collecter de l'argent, à la limite, tout le monde peut essayer de le faire. Mais il semblait assez important au collectif Ancrage de faire en sorte qu'effectivement la culture, la peinture, le dessin, c'est vraiment un moyen d'expression. Ces gens-là, ils ne peuvent pas s'exprimer. D'abord, ils n'ont pas notre langage, on n'a pas le leur. C'est difficile. Donc la meilleure solution, c'est quand même de partager un moment justement faire ces dessins collectifs. Alors moi, je n'ai pas participé parce que je n'habite pas à Paris, j'habite pas à Rennes, mais je vois, j'admire, je tire mes chapeaux, j'en ai beaucoup, mais à chaque personne qui fait ça. Et je pense que j'essaierai de participer au mois de juillet. Je crois que ce sera à Bagatelle, mais on va faire quelque chose et je pense que je vais essayer d'y aller. Mais oui, et puis il y a également une collecte de vêtements, de couvertures, de première nécessité. Ça, tout le monde peut le faire également. C'est-à-dire que les gens qui achètent nos œuvres peuvent aussi ramener en même temps qui une couverture, qui un manteau, qui. Voilà. Et des choses en bon état, bien entendu. Mais on essaie de compenser là où vraiment ça, on ne donne rien, on enlève même. Parce qu'il est même question de personnes qui. Des migrants qui ont de maigres affaires et les affaires sont mises à la poubelle par les policiers du quartier, quoi. Qui ont des directives qui sont terrifiantes. Donc voilà. C'est tout petit, mais peut-être avec plein de petites choses comme ça. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Nous, on est des auteurs illustrateurs en jeunesse. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres collectifs ailleurs. Moi, je ne les connais pas tous, personnellement. Mais c'est la moindre des choses.
Nathalie, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci de parler d'ancrage.
Notre voyage se termine dans la yourte, au fond du bocal. Une yourte qui a d'ailleurs accueilli les grandes conversations des rencontres entre des auteurs et les a bienvenus. De bien belles et grandes conversations, mais qui feront l'objet d'un autre reportage. On termine donc au fond du bocal avec Lucie Albon, auteure et illustratrice. C'est tout en douceur et poésie qu'elle nous parle de deux de ses livres, Le Grand Écart, en collaboration avec Thomas Scotto, et Les fruits et légumes de Lily. Lucie Albon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté ce petit entretien donc au Salon de Livre Jeunesse. Nous ne sommes pas à Châtillon-Saint-Jean, nous sommes à Triors aujourd'hui. Et donc on se rencontre pour parler essentiellement de deux de vos ouvrages. Le premier est un ouvrage qui est ancré dans ce salon, puisque vous m'expliquez qu'il a sa petite histoire qui est liée à ce salon. Il s'agit du Grand Écart. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, le Grand Écart, c'est une rencontre avec Thomas Scotto, qui a eu lieu sur le salon de Châtillon-Saint-Jean. Donc, grâce à cette rencontre, on a décidé à ce moment-là de travailler ensemble sur un album. On ne savait pas encore pour faire quoi, mais c'est vraiment le moment du salon qui nous a permis d'échanger et de voir comment on allait pouvoir travailler ensemble. Ce qui est super aussi, c'est que une fois qu'on a trouvé un texte qui me correspondait, et Thomas Scotto est quelqu'un de toujours très positif, donc le travail a été dans la joie, la bonne humeur, et le résultat, je crois qu'on en est fiers tous les deux. C'est une toute petite maison d'édition en plus qu'il faut soutenir, qui s'appelle le Diplodocus, qui nous a permis d'éditer le livre.
Donc ça s'appelle Le Grand Écart. Alors, de quoi parle Le Grand Écart ?
Alors, Le Grand Écart, c'est l'arrivée d'une famille dans une grande ville. Et c'est comment on trouve ses repères dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc ça pourrait se passer n'importe où. Mais c'est voir ce qui se passe quand on arrive quelque part et qu'on est nouveau. Comment on est accepté par les autres et aussi comment on se fait une lecture des endroits quand les cultures sont différentes. C'est très très poétique.
Et donc cette petite fille s'appelle Anya et elle dit « ce n'est pas ma ville normale ». En quoi cette nouvelle ville n'est pas normale ?
Ça, c'est plutôt la façon d'écrire de Thomas. « Ce n'est pas ma ville normale », c'est, si on traduit, « ce n'est pas ma ville ». Et il a une façon de juxtaposer certains mots, comme un peu plus loin dans l'album, quand elle entend les enfants parler dans la cour, ils ont des mots en confiture.
Qu'est-ce qu'un mot en confiture ?
Elle ne comprend pas ce qui se passe. Moi, pour moi, c'est très imagé. Et j'ai tout de suite des dessins qui se construisent quand je lis ces textes. Je sais que les enfants comprennent aussi très, très vite les textes de Thomas. parfois, je ressens plus de réticence chez certains enseignants que les enfants. Par exemple, j'ai rencontré une classe autour de cet album, là, sur le salon. Et les maîtresses, au début, elles pensaient que les élèves n'allaient pas accrocher du tout. Et puis, elles se sont rendues compte qu'elles avaient tort. Et là, je suis bien contente. Je suis bien contente parce que j'adore le travail de Thomas Cotto.
En tournant les pages, j'en ai une autre, là, comme ça, qui vient de me sauter aux yeux. Un garçon environ plus grand que moi. C'est beau, ça ? Un garçon environ plus grand que moi.
Je vous assure, tout est beau, c'est vraiment de la poésie.
Et donc, vous êtes l'illustratrice de cet ouvrage. Quelles sont les techniques qui sont utilisées au niveau de l'illustration ?
Là, on est sur du papier découpé, beaucoup de papier de récupération. Donc, tout ce qui va être papier d'emballage, les dos d'enveloppe, là, ce sont les tapisseries de ma grand-mère. Vous voyez, c'est vraiment tout y passe. Et je laisse aussi beaucoup de place au blanc sur ces images. C'est difficile de parler des images à la radio, hein. On essaye. Mais certains enfants me demandent, mais pourquoi elle n'a pas de t-shirt ? Elle a un t-shirt blanc sur un fond blanc. Ce qui fait qu'en effet, on ne voit pas les contours de son t-shirt quand elle est sur le fond blanc, mais dès qu'elle passe devant quelque chose, on les voit. Donc d'une page à une autre, on n'oublie pas la forme de son t-shirt, j'ai l'impression. Et certains enfants m'ont dit qu'ils le voyaient tout de suite, et d'autres étaient un petit peu embêtés par le fait que le contour de ce vêtement ne soit pas marqué. Mais de laisser entrer de l'air dans ces illustrations, ça me permettait de me rapprocher du travail de Thomas, qui est justement très poétique et très très doux.
Est-ce que quelque part ça ne participe pas aussi de sa transparence à cette petite fille dans cette ville?
Tout à fait. Ouais. Oui, exactement. Si on le prend d'un point de vue beaucoup plus profond, en effet, elle n'est pas acclimatée et elle est là un petit peu comme un fantôme qu'on ne voit pas encore dans cette ville, et ça participe à son malaise.
En tout cas, c'est un livre qu'on savoure déjà avec les yeux, sans entrer plus dans le texte. C'est un livre qui fait vraiment envie. Donc c'était Le Grand Écart, un livre donc de Lucie Albon et de Thomas Scotto aux éditions Le Diplodocus. Un autre livre, cette fois-ci, vous êtes auteur et illustratrice. Alors vous me disiez que vous étiez venue avec 12 numéros, c'est ça ?
Oui, il existe 12 numéros de cette petite série qui s'appelle Du bout des doigts aux éditions de L'Élan Vert. Et tous ces albums sont réalisés avec la paume ou le bout des doigts. J'utilise mes mains en fait comme un tampon et je juxtapose des formes pour créer ces personnages et ces décors. Et oui, je suis arrivée, enfin, c'est pas moi qui suis arrivée avec tous ces livres, c'est notre gentil libraire. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a sur la table que 2 numéros.
Oui,
c'est parti assez rapidement. C'est bien, c'est aussi grâce au travail qui est mené sur le salon, le fait d'aller dans les écoles, le travail qui est fait autour de nos livres, donne vraiment envie aux enfants de les lire. Donc ils en travaillent un en classe, et quand ils arrivent, ils en veulent un autre, ils veulent celui qu'ils n'ont pas vu avec la maîtresse, ils veulent en faire découvrir à leurs cousins. Donc il y a vraiment un engouement, on dédicace beaucoup plus à Châtillon que dans beaucoup de salons. Quand on voit ça, on se dit, ils ont gagné leur pari. Là, tous les enfants ont vraiment envie de lire. Et puis, ils sont proches de ces albums. J'étais déjà passée il y a 4 ans. J'ai revu des enfants que j'avais vus il y a 4 ans. Ils se souvenaient tous de moi. Je trouve ça assez incroyable.
Ça doit être touchant aussi.
Très, très touchant, oui.
Et donc, ce livre-là, celui que nous avons dans les mains, s'appelle « Les fruits et légumes de Lily ». Toute la série tourne autour de cette petite Lily, de cette petite souris, ou pas forcément ?
Oui, ça c'est un choix de mon éditeur, parce que j'étais plutôt partie pour faire plusieurs animaux, et en fait je crois qu'elle a trouvé son public, cette petite souris, et du coup, même si on parle de plein de choses, et même si d'autres animaux arrivent et la rejoignent pour des aventures, elle est restée la vedette, donc on la retrouve sur quasiment tous les albums.
Donc c'est la vedette de cet ouvrage, un travail donc avec des empreintes. Du coup, j'imagine qu'en en classe, en atelier, quand vous faites des interventions, ça doit être du pain béni pour les enseignants de travailler comme ça avec des empreintes et de la peinture.
Ah oui, plus que pour les mamans qui m'en veulent plutôt. Mais dans les petites classes, quand ils n'ont pas encore acquis l'appréhension d'un crayon, c'est assez génial de les voir heureux d'avoir réalisé quelque chose de figuratif. Parce qu'ils ne sont pas toujours, à 3 ans, capables de dessiner un éléphant, une souris, un papillon. Et là, on leur montre, simplement leur montrer, ils peuvent le refaire et ils sont très fiers d'eux. Et moi, j'adore quand un enfant a la banane à la sortie de l'atelier. J'adore.
C'est donc une invitation, laisser patouiller vos enfants avec de la peinture.
Oui,
ils vont se régaler.
Oui, oui.
Donc c'était Les fruits et légumes de Lily, de Lucie Albon, donc auteure et illustratrice de cet ouvrage, pour la maison d'édition Les Lambert. Lucie, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le salon de Livre Jeunesse, c'était du 27 mars au 1er avril 2017. C'était à Trieure. Et pour en savoir plus sur cet événement, vous pouvez toujours vous rendre sur leur site internet www.livre-jeunesse-chatillon.com.